Le journal Ramambay. Quatre pirogues motorisées ont sombré hier lundi sur la rivière Tchopo dans la province orientale. Le bilan est d'un mort, 12 disparus et 92 rescapés. Les Maïmaï du Nord Katanga seront bientôt assiégés et combattus comme les miliciens en Ituri. Le chef d'état-major général des FRDC l'a annoncé hier lors d'une causerie morale au camp militaire Vangu de Lubumbashi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réjouit du bon déroulement des élections au Burundi. Déclaration de Jean-Marc de La Sablière, chef de la délégation du Conseil de sécurité, arrivé hier à Bujumbura après Mbujimayi et Kamina en RDC. Mesdames, Messieurs, bonjour. À Kisangani, dans la province orientale, quatre pirogues motorisées, attachées les unes contre les autres, ont chaviré hier lundi à quelques mètres du lieu d'accostage. Bilan, un mort, 12 disparus et 92 rescapés. La surcharge serait à l'origine de cet accident qui est survenu sur la rivière Tchopo dans la commune de Mangobo. Des précisions avec André Kitenge.
Selon la police d'investigation criminelle de la commune de Mangobo, 108 passagers et leurs biens se trouvaient à bord de ces quatre pirogues en provenance du territoire d'Isangi, situé à 125 km en aval du fleuve Congo. Ces pirogues auraient chaviré suite à la surcharge, témoignage d'un rescapé.
Nous avions navigué, tout juste la pirogue était trop chargée, tirando c'était zéro. On a voulu même faire un accident au niveau de l'île de Belgica. Arrivé à la BAC, il y a même les GSSP qui suspectaient ça. Quand nous sommes arrivés à Djoubou-Djoub, comme la pirogue était trop chargée, le conducteur avait engagé la vitesse avec une force et tout juste il avait accéléré. Quand il accélérait, c'est à ce moment que la pirogue était renversée et nous étions paniqués de tout ça.
Pour la police fluviale de Kisangani, 70 personnes seulement et 5 membres d'équipage étaient autorisés à embarquer par la force navale à Isangi avant le départ. Malheureusement, tout au long de leur parcours, les membres d'équipage ont ramassé plusieurs autres passagers jusqu'à atteindre un effectif de 108 personnes. Les recherches sont en cours pour tenter de retrouver les disparus. De Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi.
Au sud Kivu, 7 personnes ont été tuées et 3 autres blessées le week-end dernier dans les localités de Miowe et Kabego. Selon les témoignages recueillis, ces personnes auraient été tuées à la machette par des combattants hutu-rwandais. Le responsable de l'association des chauffeurs sur l'axe Bukavu-Bunyakiri rapporte que les habitants des localités de Machere, Luana, Kambeketi fuient vers la localité de Boulambika. Cette population estime que les combattants hutu-rwandais aient commis cet acte pour se venger après la capture des 15 des leurs par les unités FRDC. Sud Kivu encore, bilan positif des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs à Ninja. Le bureau provincial de la commission électorale indépendante a annoncé hier que plus de 100% de personnes ont été enrôlées sur un total de 12 000 attendus. Pour la CEI, ce chiffre est un succès car ils ont été atteints dans un secteur où les combattants hutu-rwandais sont encore actifs. Écoutons Gaudens Maéché, coordonnateur de la CEI du Sud Kivu.
L'accès a démontré que la commission électorale indépendante n'hésite pas d'un seul instant à se rendre même sur des lieux jugés d'accès difficile, des zones même on dirait rouges. Malgré quelques difficultés liées à la logistique, nous avons 9 centres qui ont fonctionné du côté IMB. Et 6 centres qui ont fonctionné du côté Luago. Je peux signaler que d'une façon précise, dans la contrée d'Ihembe, nous avons atteint 8495 électeurs. Du côté de Luago, nous avons atteint 8194 électeurs. Et du côté du Regabaroni, nous sommes arrivés à 2587 électeurs. Soit au total, pour toute la collectivité chefferie des Ninja, 19276 électeurs.
La pacification du Nord Katanga n'est plus qu'une affaire de quelques jours. Fini le temps des négociations. Déclaration du chef d'état-major général des FRDC lors de la causerie morale hier, lundi, au camp militaire Vangu de Lubumbashi. Le général Kisempia Sungilanga précise que les Maïmaï du Nord Katanga seront bientôt assiégés et combattus comme le sont les miliciens en Ituri. Donatimbosh.
Il faut rétablir l'autorité de l'État partout dans la République. Le plus tôt sera le mieux. Vous savez, les élections doivent être sécurisées sur toute l'étendue de la République. Le temps est passé pour les négociations. On a négocié et j'ai bien dit, les portes restent ouvertes. Pour ceux qui veulent s'intégrer dans les forces armées, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui veulent regagner la vie civile, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui veulent troubler leur public, c'est là où il y a des problèmes. Et si Gédéon est dans ces cas-là, il aura des problèmes. Voilà.
C'était le général Kisempia Sungilanga qui répondait aux questions de Donat Chimboge. En attendant d'être combattu, ces Mai Mai sèment la terreur à Kongolo dans le Katanga. Les habitants de la localité de Mbulula, à 62 km à l'est de Kongolo, se plaignent des tracasseries commises par leur chef Kanunu. Ils affirment être soumis aux amendes forfaitaires et autres exactions sans motif. D'autres témoins dénoncent la pratique du fouet instaurée depuis quelques jours dans cette localité. Le point avec François-Xavier Mibé.
Les habitants sont obligés de se coucher à 19h30 et s'élever à 6h30. La personne qui n'observait pas la décision du chef Mai Mai Kanunu est condamnée à la chicote. Selon Raphaël Ilunga Bashika, président de la commission Justice et Paix des Congolos, plusieurs habitants se plaignent de cette nouvelle réglementation en vigueur depuis plusieurs jours en Mbulula. Il indique aussi que les hommes de troupes du chef Mai Mai excellent en exaction. Les Mai Mai des Kanunu passent régulièrement dans des maisons et saisissent chèvres et poules pour son compte. D'autres témoignages parlent d'un tribunal que le chef Mai Mai Kanunu a érigé où amendes arbitraires allant jusqu'à 25 000 francs congolais sont infligées aux habitants. L'administrateur de territoire ad intérim Willy Kisimba confirme également ces allégations. Mbulula n'échappe pas seulement au contrôle de son administration, mais aussi à celui des autorités militaires de FRDC à Kongolo à cause du chef Mai Mai Kanunu qui agit en leader, a précisé l'administrateur de territoire. François-Xavier Mibé, Radio Kapi, Kalemie.
Assassinat de Franck Kangundungike, le vice-président de la Défense et Sécurité, a annoncé l'arrestation depuis dimanche de deux suspects par la police de Kinshasa. La nouvelle a été annoncée hier. C'était en réponse au mémorandum des journalistes à la fin de leur marche pacifique. Une marche qui visait à dénoncer le double crime et exiger une commission d'enquête mixte sur l'assassinat de Franck Kangundu et son épouse. Cette nouvelle du vice-président Roubaix-Roy a été accueillie par les associations des journalistes. Cependant, certaines d'entre elles exigent toujours qu'une commission indépendante soit mise sur pied afin de faire la lumière autour de cet assassinat. On écoute Chivis Chivwadi, secrétaire général de Journalistes en danger.
Nous tenons absolument à ce qu'on mette sur pied une commission d'enquête indépendante dans laquelle va se retrouver des membres du gouvernement, mais aussi des membres des représentants de la profession et pourquoi pas des représentants de la mission d'observation des Nations Unies pour qu'on puisse tirer vraiment cette affaire au clair. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de voir deux individus qu'on présenterait à la télévision dans une sorte de parodie de procès. Nous en avons connu dans ce pays ici. Ce que nous voulons, c'est d'aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire nous voulons dans ce cas précis, puisqu'il apparaît de plus en plus clairement que ceux qui ont tué Franck, c'était des gens qui étaient en mission commandée, ils ont agi sur commande, ils savaient très bien qu'ils avaient affaire à un journaliste, ils sont venus justement pour accomplir une mission. Nous voulons savoir qui sont les commanditaires et quel est le mobile pour lequel on a assassiné le journaliste, pour que pour nous, nous soyons rassurés, parce que nous avons de plus en plus peur que ce soit le début d'une série d'assassinats programmés peut-être des journalistes.
Chivis Chivwadi a été joint par René Capita. Signalons que Franck Guiquet et son épouse seront inhumés ce mardi au cimetière de la Gombe à Kinshasa. Le Conseil de sécurité des Nations Unies poursuit son séjour dans les Grands Lacs. Elle se trouve en ce moment à Bujumbura. À son arrivée dans la capitale burundaise, la délégation a jeté des fleurs au Burundi. C'est en tout cas le résumé des propos tenus hier soir par le chef de la mission du Conseil, l'ambassadeur de France à l'ONU, Jean-Marc de la Sablière. Le point avec notre envoyé spécial à Bujumbura, Léonard Moulamba.
C'est une visite bien agréable que le Conseil de sécurité entame au Burundi. Jean-Marc de la Sablière n'a pas mâché ses mots hier soir devant la presse. Nous sommes venus rendre hommage au peuple burundais pour la réussite de la transition. Une réussite pour la région, une réussite même au-delà, s'est exprimé avec émotion le chef de la mission du Conseil. Le Burundi, on le sait, a élu en août dernier son président de la République, Pierre Nkurunziza, tout cela après les élections législatives et sénatoriales. Mais il y a beaucoup à faire, a prévenu Jean-Marc de la Sablière. Il faut compléter le désarmement. Il faut qu'il dise que le FLN, le Front National de Libération, rejoigne le camp de la paix. Il y a surtout la reconstruction du pays qui demeure à accomplir. À ce sujet, l'ONU promet son soutien comme elle l'a fait pendant la transition. Notez que cette délégation venait de Kamina à RDC où elle venait de terminer une visite analogue. Ce mardi, la mission du Conseil de sécurité aura des entretiens avec le président de la République ainsi qu'avec différentes personnalités burundaises. Bujumbura, Léonard Moulamba, Radio Okapi.
À la base militaire de Kamina, la mission du Conseil de sécurité s'est rendue compte hier lundi du chemin qui reste à parcourir pour la mise sur pied d'une armée structurée et intégrée en RDC. Pas assez de brigades brassées, la réforme administrative qui reste en cours pour améliorer le vécu quotidien des militaires, avec entre autres la paie de la solde et assurer le besoin élémentaire des militaires déployés sur terrain. Tout cela a été évoqué au cours des échanges que la délégation a eus avec les officiers des FRDC. C'était en présence du ministre de la Défense Adolphe Onusumba, du colonel Emembiato, de la structure militaire d'intégration et du commandant des forces de la MONUC, le général Babacar Gaye. À l'étape de Mbujimayi, la visite de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est effectuée sur fond d'une manifestation des militants de l'UDPS qui scandaient des slogans hostiles au gouvernement de transition. L'ambassadeur de France qui mène la délégation a expliqué cette visite au chef-lieu du Kasaï oriental par l'importance de cette province pour le pays, tant sur le plan économique que politique. Jean-Marc de la Sablière est au micro de Chris Mukand.
Nous sommes venus ici essentiellement pour vérifier dans cette capitale du Kasaï oriental les conditions de sécurité et les résultats de l'opération d'enregistrement des électeurs, parce que c'est une province qui est politiquement, économiquement très, très importante. Nous souhaitons ardemment que l'ensemble des partis politiques participent au processus électoral pour qu'il soit un véritable succès et une étape fondamentale sur le chemin de la renaissance de la nation congolaise. Il n'y a pas d'autre alternative que la tenue d'élections libres et crédibles dans le calendrier qui a été prévu. Et c'est la réussite de ces élections qui permettra au peuple congolais, une fois franchi cette étape, de concentrer tout son effort et son énergie au développement.
L'organisation Tous pour la paix et le développement TPD proteste contre la résolution 1596 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution prévoit des sanctions contre l'ONG de Goma, accusée d'avoir violé l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU, les membres de cette organisation prétendent que le Conseil de sécurité a été induit en erreur. Jean-Paul Basila.
Ferme protestation, tel est l'objet de la lettre que les membres de l'ONG TPD viennent d'adresser au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans leur lettre, ils jugent injustifiées les mesures prévues dans les paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 du Conseil de sécurité de l'ONU à l'encontre de leur organisation. La décision du Conseil assimile les TPD à tous ceux qui ont violé l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo. Et Jean Tserofouli, gouverneur du Nord Kivu, mais aussi président du conseil d'administration du TPD.
C'est tout à fait malheureux. S'il y a des experts qui ont donné des fausses informations, mais cette organisation TPD, c'est une ONG qui s'investit dans des programmes de pacification. Ce sont les membres de TPD. Ils ont rapatrié beaucoup de combattants FDLR. Je pense que cette décision a été prise sur base de fausses informations. J'espère que le Conseil de sécurité des Nations Unies aura la possibilité de rectifier.
À Goma, la lettre des protestations du TPD a été déposée ce lundi au bureau de la MONUC. Marane Ladjouzi, chef des bureaux de la MONUC à Goma, promet de la transmettre à qui des droits.
Il y a une décision du Conseil de sécurité qui n'a pas été prise à la légère. Nous aurons à l'appliquer. Si en même temps il y a des éléments d'information supplémentaires qui sont fournis par cette organisation, nous nous ferons le devoir de les communiquer à qui des droits.
Rappelons qu'un dossier judiciaire oppose depuis juin dernier l'ONG TPD à un groupe de personnes. Ce personne serait à l'origine des accusations qui le diabolisent à ses jours. Des Goma, Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
Bakongo, arrestation dimanche dernier d'un présumé voleur de câbles électriques au quartier Nkalankala Matadi. L'homme, la trentaine révolue, a été surpris par un policier au moment où il volait un isolateur au bout d'un poteau. Le voleur, qui reconnaît les faits selon plusieurs témoignages, ne cesse de prodiguer des conseils à qui veut l'entendre. Il a même demandé au policier d'être vigilant car beaucoup de ses amis se sont enrichis grâce à ce genre de vol, a-t-il déclaré. En dehors de nos frontières, les Libériens sont appelés aux urnes ce mardi pour élire leur président de la République. C'est à l'occasion du second tour de la présidentielle. Ils doivent trancher entre George Weah, le ballon d'or africain, et Hélène Sirleaf. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, les électeurs vont porter à la tête d'un État soit une femme, soit un ex-footballeur. Pour rappel, à l'issue de ce premier round, c'est l'ancien footballeur converti à la politique, George Weah, qui est arrivé en tête avec 28% des suffrages. 7h15 à Kinshasa. On se retrouve à 8h pour un nouveau journal en français.